RFI. Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian, Cédric De Oliveira.
Bonsoir à tous, Mondial Sport, votre résumé grand format de l'actualité de ce dimanche. Le football d'abord bien sûr, et la fin du pseudo-suspense en France et en Angleterre. Le Paris Saint-Germain a officiellement récupéré son trône de champion de Ligue 1 en balayant littéralement son dauphin Monaco, 7 buts à 1. Thomas Tsalégé sera en direct du Parc des Princes dans un instant. Manchester City, lui, a profité du loupé de Manchester United à domicile pour empocher le titre en Première Ligue. Olivier Sclaveau nous en parlera. Paris champion, la voie est libre pour Thomas Tuchel, amené à succéder normalement à Unai Emery comme entraîneur la saison prochaine. Qui est-il ? A-t-il le talent et le caractère pour emmener le PSG plus loin en Ligue des Champions et gérer les égos dans le vestiaire ? Julien Méchoussi nous tirera son portrait. Dans l'actualité africaine, la fin du tour cycliste du Togo, le monde sportif sénégalais prêt à s'investir pour accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Et puis vous entendrez Anthony Obam, le médaillé olympique et mondial gabonais de taekwondo, préoccupé par les gros retards de financement de ses préparations aux grandes compétitions. C'est donc fait et très bien fait. Le Paris Saint-Germain n'aura pas fait durer le semblant de suspense au-delà de cette 33e journée de Ligue 1 avec ce 7e titre officialisé dans les meilleures circonstances possibles à domicile et à l'issue d'un duel au sommet mais à sens unique avec le champion sortant Monaco. Une passation de pouvoir qu'on va qualifier de très autoritaire. Victoire parisienne 7-1 sous les yeux de Thomas Tsalégé. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alors d'abord on aurait pu croire que l'ambiance était encore la fête en ce moment dans les travées du Parc des Princes après ce carton. Ben pas du tout, le stade est vide.
Pas du tout, je ne sais pas si on a le triomphe modeste côté PSG, en tout cas c'était vraiment très rapide comme célébration, une dizaine de minutes pour se congratuler, pour saluer les supporters, quelques cotillons bleus et rouges pour emballer tout ça et puis zou, tout le monde au vestiaire. On le savait, le trophée de la Ligue 1 n'était pas censé être présenté ce soir à la fin du match, mais tout cela laisse une drôle d'impression. Il y a eu d'ailleurs une drôle d'ambiance ce soir, une ambiance sur courant alternatif en quelque sorte, la faute peut-être à la suspension des ultras, suspension prononcée par la Ligue. On le sait, une partie des ultras parisiens ne sont pas là ce soir. On a eu du bruit, des chants timides sur les 7 buts parisiens et puis le reste du temps pas grand chose, ce qui a valu d'ailleurs un petit chambrage des supporters monégasques. On les a entendus chanter Il est mort, le Parc des Princes. Ça fait sourire quand même, Christophe, quand on connaît la réputation de l'ambiance du stade Louis II et puis surtout l'ampleur du score de ce soir. Vous le disiez, 7 buts à 1, il y avait pas photo entre ces deux équipes.
Ouais, pas photo, les Parisiens gagnaient en plus avec la manière. C'est d'autant plus regrettable de ne pas avoir fêté ça un peu plus longtemps.
Oui, 7 buts pour fêter ce 7e titre. Il y avait vraiment une classe d'écart, on peut le dire, entre le PSG et son dauphin, son prédécesseur d'ailleurs au palmarès du championnat de France. Un match plié en 15 minutes entre la 15e et la 30e minute. Il y a eu 4 buts, 4 très beaux buts d'ailleurs, on peut le dire. Lo Celso par deux fois, Di Maria il y a une fois, Cavani aussi a participé à la fête et puis Lopez a réduit l'écart pour Monaco, 4-1 c'était le score à la pause. Derrière, le PSG a poursuivi son récital offensif avec des buts de Di Maria, encore lui, Falcao mais contre son camp et puis Julian Draxler l'allemand pour conclure le calvaire des monégasques. Monaco qui a en plus perdu sur blessure Djibril Sidibé, blessure à la jambe droite, ça a l'air assez grave, en tout cas il est sorti sur Sivière. Il faudra bien sûr surveiller ça pour l'équipe de France et la Coupe du Monde qui approche. Voilà, Paris qui gagne très largement ce championnat avec 87 points. Paris qui a gagné la Coupe de la Ligue. Paris qui gagnera peut-être la Coupe de France. Les Parisiens sont en demi-finale. Mais cette saison, quoi qu'il arrive, elle laissera bien sûr un goût amer dans la bouche des supporters avec, bien sûr, on s'en rappelle, cette élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.
Merci beaucoup Thomas. On vous laisse aller vite recueillir les réactions des Parisiens à ce sacre en Ligue 1, ce qui place d'ailleurs les joueurs de la capitale à hauteur de Lyon, désormais au palmarès, le record étant toujours détenu par Saint-Etienne avec 10 titres. Le PSG champion, déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions. Et donc, en vue maintenant ce quatrième et dernier objectif, la Coupe de France, ce sera demi-finale mercredi à Caen, histoire de faire le grand chelem national. Faute de mieux, une fois de plus, Thomas vous l'a dit, la Ligue des Champions, c'est encore trop. Unai Emery n'est pas parvenu à faire monter son équipe sur le toit de l'Europe et c'est le jeu, en principe, dans un club porté par les plus hautes ambitions. L'entraîneur basque va devoir très certainement s'effacer. Au profit de qui? Rien d'officiel encore, mais c'est un secret de polichinelle. Le successeur s'appelle Thomas Tuchel, l'entraîneur du Borussia Dortmund de 2015 à 2017, méconnu en France, ancien joueur anonyme. Il est aujourd'hui considéré outre-Rhin comme l'un des tout meilleurs techniciens du moment. Son portrait signé Julien Méchaussy à Berlin.
27 mai 2017, stade olympique de Berlin, le BVB remporte sa quatrième Coupe d'Allemagne et Thomas Tuchel son premier titre majeur. Mais pour Ron Ulrich, journaliste au mensuel Elf Freunde, consacré au football et sa culture, ce serait une erreur de s'arrêter à cette seule ligne au palmarès.
Il fait clairement partie des meilleurs entraîneurs allemands et pour beaucoup c'est même le meilleur. Oui, il n'a gagné qu'une Coupe d'Allemagne, mais il ne faut pas oublier qu'à Dortmund, il a fini vice-champion avec le plus grand nombre de points de l'histoire de la Bundesliga pour un deuxième. Performance incroyable pour sa première saison dans un grand club comme Dortmund.
Une saison 2015-2016 terminée avec 78 points dans un championnat à 18 clubs et un Bayern une fois de plus intouchable. Pour les supporters du BVB comme Volker Wiemann, Thomas Tuchel a prouvé qu'il était de la trempe d'un Jürgen Klopp, son prédécesseur à Dortmund.
Il a réussi tout de suite à diversifier le jeu de Dortmund. À l'époque de Jürgen Klopp, le BVB misait tout sur la récupération du ballon pour se projeter tout de suite vers l'avant, ce que l'on appelle ici le contre-pressing. Thomas Tuchel a imposé une palette tactique plus diversifiée, il a rendu le jeu de Dortmund plus flexible avec plusieurs systèmes.
Adepte de la philosophie de Pep Guardiola, Thomas Tuchel a ajouté à ce fameux contre-pressing de longues phases de possession de balles, la marque de fabrique d'un entraîneur connu aussi pour son approche très théorisée, très intellectuelle du football et un caractère qualifié parfois de froid en Allemagne qui l'a amené d'ailleurs à entrer en conflit avec certains joueurs et dirigeants. Lors de sa première expérience sur le banc à Mayence entre 2009 et 2014 après une modeste carrière de joueur, il a également laissé se souvenir de quelqu'un de distant. Malgré 5 saisons réussies sur le plan sportif et une qualification européenne avec des moyens limités, se rappelle Kai Schultz, supporter du FSV Mainz où Tuchel a également pris la succession de Jürgen Klopp.
Il a eu des relations compliquées avec les supporters, surtout avec les ultras qui lui reprochaient de ne pas s'identifier avec le club, à l'inverse d'un Jürgen Klopp. Je me rappelle de matchs perdus à l'extérieur. Klopp venait nous voir et nous donnait 100 euros pour qu'on puisse acheter des bières. Tuchel, lui, a gardé ses distances avec ses fans. Il n'est jamais venu nous voir pour parler avec nous.
Si Thomas Tuchel n'est pas du genre à embrasser l'écusson de son club, Ron Ulrich n'a aucun doute sur sa capacité à gérer les stars du PSG.
Lors de sa première saison à Dortmund, il a su tout de suite tirer le meilleur de ses joueurs. Et on ne parle pas de n'importe qui, hein, des joueurs de classe internationale comme Aubameyang, Mkhitaryan ou Dembélé. Bien sûr qu'à Paris, c'est encore un niveau au-dessus, mais il a démontré à Dortmund qu'il savait s'y prendre avec les grands joueurs et surtout qu'il sait faire progresser de tels joueurs.
Pas d'inquiétude donc en Allemagne sur la future réussite de Thomas Tuchel au PSG, mais bien le regret de voir l'un des meilleurs entraîneurs du pays partir à l'étranger. Julien Méchaussy, Berlin RFI.
Et cette officialisation de l'arrivée de Thomas Tuchel devrait intervenir le mois prochain, sans doute après le 8 mai, date de la finale de la Coupe de France. Pour être tout à fait complet sur la Ligue 1 hors PSG, sachez que Marseille s'accroche toujours à la roue de Lyon pour la troisième place après une victoire à l'arraché à 3 sur le score de 3-2. Les deux Olympiques sont à 66 points, à 4 longueurs seulement de Monaco. Attention, les joueurs de la Principauté. De son côté, Bordeaux est allé battre Montpellier 3-1 grâce notamment à un but du Guinéen François Camano. Allez, on file maintenant outre-Manche, puisque les jeux sont également faits pour Manchester City en première ligue. Les Citizens, champions pour la 5e fois de leur histoire. On retrouve notre correspondant Olivier Sclaveau. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, bonsoir à tous.
C'est écrit depuis un moment, vu l'énorme écart avec Manchester United au classement, mais les Red Devils sont, comment dirais-je, abrégé le faux suspense de manière inattendue en trouvant le moyen de perdre à Old Trafford face en plus à la lanterne rouge West Bromwich 1-0.
Ouais, c'est assez impressionnant, une grosse laque. Alors après la démonstration et le caractère qu'avait affiché Manchester United en deuxième période lors de la victoire dans le derby de contre City la semaine dernière, West Brom, c'est quand même une équipe qui n'avait plus gagné depuis fin janvier, qui venait d'enchaîner 10 défaites d'affilée. Alors c'est pour vous dire la claque que prend United de ce match-là. José Mourinho avait effectué 2 changements par rapport au titulaire du superbe derby, mais plus rien à voir au niveau du jeu. Alors oui, les Red Devils ont beaucoup eu le ballon, énormément même, mais n'ont pas réussi à en faire grand-chose. Peu d'idées, peu de créativité et zéro réussite face au but adverse. Et puis quand Romelu Lukaku est tout proche d'ouvrir la marque de la tête, eh bien Ben Foster, le gardien adverse, réussit un arrêt absolument génial.
Alors si Manchester City est champion ce soir, c'est aussi et avant tout peut-être parce qu'il est allé battre Tottenham 3-1 hier à Wembley. Ça faisait longtemps qu'un titre n'avait pas été obtenu si tôt dans la saison. Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques globales de City, c'est une saison énorme à tout point de vue.
Oui, alors d'abord, c'est vrai, après les claques du derby de Manchester perdu contre United et ce quart de finale de Ligue des Champions complètement dominé par Liverpool, il fallait rebondir et ils l'ont fait avec la manière à Wembley contre Tottenham. Donc c'est une nouvelle preuve de la force de cette équipe de City et puis l'épreuve de leur supériorité. Ils nous en ont donné beaucoup cette saison, les hommes de Pep Guardiola. Remporter le championnat, comme vous l'avez dit Christophe, alors qu'il reste 5 matchs à jouer, ça n'a été réussi que 3 fois en Angleterre dans l'histoire du championnat. Et depuis en début de saison jusqu'en décembre, ils ont aussi enchaîné 18 victoires d'affilée, un record absolu qu'ils ont établi eux-mêmes cette saison. Et puis alors si on continue dans les chiffres, le record de points sur une saison est de 95 points, c'est la propriété du Chelsea de José Mourinho en 2005. Les Citizens sont à 10 points de cette marque et il y a encore 15 points en jeu. Et puis les buts, 93 marqués jusqu'ici, soit 10 de moins que le record détenu par Chelsea, par le Chelsea de Carlo Ancelotti. Et ils peuvent même aller chercher le nombre de points d'écart entre le premier et son dauphin, qui date de 99-2000. Ils ont 2 points à aller chercher à mettre entre eux et United, à mettre entre eux et Liverpool peut-être d'ici la fin de la saison. C'est des statistiques qui donnent le vertige.
Olivier, en quelques mots, on peut quand même pas s'empêcher de faire un parallèle entre les saisons de Manchester City et du Paris Saint-Germain, ultra dominateurs chacun de leur côté sur le plan national, mais vous l'avez dit d'ailleurs, tombés de très haut en Ligue des Champions. Alors malgré le titre et les performances en Première Ligue, est-ce que ce deuxième exercice de Pep Guardiola à la tête des Citizens ne laisse pas quand même un goût d'inachevé?
Oui, parce que bon, il mérite clairement de nombreux compliments. Et puis avec les louanges qu'a reçues l'équipe, l'enthousiasme qu'elle a soulevé par rapport à son jeu, sa domination sans partage, beaucoup s'attendaient à plus. Alors au rayon des déceptions, il y a d'abord l'élimination sans gloire en FA Cup par Wigan, qui joue en 3e division. Et puis surtout, voilà, ce quart de finale de Ligue des Champions, Liverpool les a tout simplement punis à l'aller comme au retour. Beaucoup s'étaient avancés sur ce groupe de joueurs et leur entraîneur, les avaient comparés aux plus grandes équipes du monde. Aujourd'hui, Manchester City est surtout la meilleure équipe d'Angleterre. C'est beau, c'est très grand, mais c'est tout.
Merci beaucoup Olivier Sclaveau en direct de Londres. Et puis un petit résultat à noter également cet après-midi. La défaite d'Arsenal à Newcastle, 2-1. Rapide détour par la Liga, la 32e journée s'est achevée par la victoire difficile de Real Madrid, 2-1 sur le terrain de la lanterne rouge Malaga. Mais ça lui permet quand même de remonter sur le podium à la 3e place à 4 points de l'Atlético de Madrid qui a battu les Levantés 3-0. Et puis la bonne affaire de la Juventus Turin lors de la 32e journée de Serie A. Large victoire à domicile du leader 3-0 sur la Sampdoria Gênes. La Juve creuse l'écart, 6 points désormais, avec Naples qui n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 au Milan AC. Et même score dans le derby romain, toujours bouillant, mais donc un petit peu décevant, entre la Lazio et la Roma. Le football, c'est l'Afrique, évidemment. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Christophe.
Et c'est le tour cadrage retour de la Coupe de la Confédération auquel va participer le Djoliba de Bamako.
Mais ce sera en milieu de semaine face au MFM FC, un club de Lagos. Alors c'est un des 16 duels de ce barrage entre les équipes reversées de la Ligue des Champions et les équipes qui se sont extirpées des tours préliminaires. Et les Maliens sont bien partis pour se qualifier après leur victoire 1-0 la semaine dernière au Nigeria.
Le Djoliba, dernier représentant des 4 club malien en Coupe d'Afrique.
Ouais, l'AS Real de Bamako et le Stade malien n'ont pas franchi les tours préliminaires de cette Ligue des Champions. Même chose pour le 11 créateur en Coupe de la Confédération. Le Djoliba est donc le dernier survivant d'un championnat arrêté depuis un an maintenant à cause de la crise des instances sportives maliennes. Le club ne joue donc que ses matchs de Coupe d'Afrique et l'entraîneur Fanny Ridiara est plutôt fier du comportement de ses joueurs malgré l'absence de compétition.
On doit aller jusqu'au bout. Nous, c'est l'état d'esprit qui nous a animés. Et on était 4 au départ et 3 sont restés avec lors des préliminaires. Et maintenant, nous sommes les seuls en compétition. Nous nous voyons maintenant en mission et pour permettre quand même à nos concitoyens de pouvoir prendre l'année prochaine aux différentes compétitions africaines.
L'aventure pourrait donc bien continuer pour les hommes de Fanny Ridiara, mais il faudra bien négocier ce match retour.
Oui, on l'a dit, le Djoliba avait fait le coup parfait le week-end dernier à Lagos. Une victoire 1-0 qui lui permet donc d'aborder ce match retour sereinement et avec un état d'esprit plutôt conquérant.
Avec beaucoup de concentration, beaucoup de sérieux dans tout ce qu'on fait, parce que je le dis, au match aller, on pouvait tuer le match depuis Lagos. Malheureusement, nous n'avons pas eu les pieds heureux, mais avec un but déjà, c'est beaucoup, mais c'est très peu. C'est ce que j'ai dit après le match du Nigeria. Le match, il faut l'oublier, on ne dort pas sous nos lauriers. Et ici, depuis la fin des 90 minutes, la préparation du match retour a commencé. Donc nous sommes dans cette mouvance pour mieux finir en beauté.
Voilà, propos recueillis par Mamadou Kaloga. Le match aura lieu à 17h temps universel mercredi au stade Modibo Keïta de Bamako. À suivre également dans ce tour de cadrage, les Sénégalais de Génération Foot en déplacement au Maroc pour affronter la Renaissance de Berkane. Les Congolais du Kara-Brazzaville accueillent les Éthiopiens de Saint-Georges. Et puis duel entre le CS La Mancha de Pointe-Noire et l'AS Vita Club de Kinshasa. Les vainqueurs, Christophe, seront alors qualifiés pour la phase de poule qui débutera début mai.
Voilà pour le football. On passe au cyclisme, Cédric, avec l'épilogue du Tour du Togo ce dimanche. Un Tour du Togo remporté par Abdoulaziz Nikima.
Oui, le Burkinabé a finalement réussi à conserver 4 secondes d'avance sur le Sander Cordel. Le Belge s'est pourtant adjugé la 6e et dernière étape au sprint, mais ça n'a pas suffi. 4 précieuses secondes donc pour Nikema, qui est vainqueur de cette 27e édition du Tour du Togo. Le bilan avec Comelan et Clou.
Maillot jaune depuis la première étape, le Burkinabé Aziz Nikima a dû avec son équipe batailler dur pour repousser tout au long de la compétition le Belge Cordel Sandez qui était à 4 secondes. Troisième de cette 6e et dernière étape, Aziz Nikema remporte le Tour du Togo. Une victoire qui dédie à ses coéquipiers.
Je vais féliciter toute l'équipe parce que c'est eux qui ont fait le boulot. Le danger maintenant, c'était le dossier 43. Je suis à 4 secondes. Donc je le suivais de près à tout temps. Donc vous voyez que dans les 3 derniers tours, il a essayé de m'attaquer pour le voir. Il a vu que ça n'a pas marché, il m'a félicité et puis il n'a plus essayé.
Pour son premier tour en Afrique, le Belge Cordel Sandez s'est classé 2e et a gagné 3 étapes.
J'ai eu un peu malchance la première journée avec un pneu vide, donc c'est un peu à cause de ça que j'ai perdu du temps. Mais c'est des courses, c'est toujours un peu comme ça, donc je suis content quand même.
Ivoiriens, Maliens et Nigériens ont été très actifs sur le tour. L'Ivoirien Bamba Karamoko est 3e à 16 secondes du maillot jaune et le Malien Yaya Diallo 5e à 52 secondes. La présence des Belges a relevé le niveau de l'épreuve à la satisfaction du directeur adjoint du tour, Francis Ducreux.
C'était un tour qui a été très dynamique, puisque vous avez eu des étapes qui se sont mises à fait de plus 42 de moyenne. Il y a eu pour les sprints, il y a eu également pour les rouleurs, il y a eu également pour les grimpeurs. Mais il faut reconnaître qu'il y avait des grandes montagnes où il y a eu certains coureurs qui se sont trouvés en difficulté. Donc moi, ça a été un tour, je dirais, joli dans l'ensemble. Sauf l'avant-dernière étape où une dame a traversé pour arroser les coureurs et les coureurs sont tombés. Mais néanmoins, la course est rentrée sans incident grave.
Minés par une crise, les Togolais qui présentaient une nouvelle équipe composée de civils et militaires ont sombré. 10 coureurs sur 12 se sont classés au-delà du 46e rang. Pour autant, le président de la Fédération Togolaise de Cyclisme, l'honorable Koku Gagou, n'est pas trop déçu.
C'est leur première épreuve. Et avec un entraînement de 3-4 mois, ils ne peuvent pas s'y prendre. Et je suis très satisfait. Au troisième étape, vous avez vu, ils sont tous dans le peloton à leur arrivée. J'apprécie cela. Et maintenant, je me suis dit, mais cette première expérience va nous préparer pour les éditions à venir.
Les Togolais vont participer à de nombreux tours cyclistes à l'étranger pour s'aguerrir, a promis l'honorable Koku Gagou, comme l'a écrit Lomé RFI.
Et puis un mot, Christophe, sur le Tour du Maroc, également remporté par le Français David Rivière. Le Français a donc terminé avec 8 secondes d'avance sur l'Américain Alexei Vermeulen et 33 sur l'Allemand Nicodemus Höller. Rivière, qui a vécu une 10e et dernière étape plutôt tranquille entre El Jadida et Casablanca, conclut au sprint par Yacoub Maresco. La 6e victoire tout de même de l'Italien en 10 étapes.
Et puis on va rajouter un petit résultat en Europe, cette fois la victoire du Danois Michael Valgren dans l'Amstel Gold Race, la classique néerlandaise. Le coureur de l'équipe Astana s'est imposé devant son compagnon d'échappée, le tchèque Roman Kreuziger. C'est son 2e succès de la saison après la Het Nieuwsblad fin février. Cédric, on repart en Afrique avec le Sénégal cette fois. Le Sénégal qui rêve d'organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022.
Oui, des Jeux réservés aux sportifs de 14 à 18 ans et qui ont lieu, comme la version adulte, tous les 4 ans. Le Sénégal est donc intéressé. Il a déposé sa candidature auprès du Comité International Olympique sans avoir officiellement choisi la ville, mais a priori ça devrait être Dakar. Le CIO a d'ailleurs déjà visité les installations sur place à Dakar. En tout cas, tout le monde semble enthousiaste à l'idée d'accueillir cette compétition en 2022. Le reportage de Babacar Fall.
Des Jeux Olympiques au Sénégal, le projet, l'idée excite les milieux sportifs. Amima Keitiam, ancienne championne du monde du 400 mètres, les Jeux Olympiques qu'elle connaît, 3 participations. L'ambiance des JO, c'est à vivre, selon elle, même si c'est pour des athlètes âgés entre 14 et 18 ans.
Le premier objectif, c'est de participer, comme dit le Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer d'abord pour un sportif. Je crois que c'est un rêve pour tous les sportifs. Et puis, c'est un moment de communion des sportifs. Mais surtout ne pas se glorifier encore, parce que organiser des Jeux Olympiques, ça demande d'abord beaucoup de moyens, des finances, et aussi d'avoir des infrastructures à la hauteur des Jeux Olympiques.
Et c'est pourquoi d'ailleurs une mission du CIO était venue au Sénégal il y a quelques semaines pour une inspection. Le ministre des Sports, Matarba.
Ils sont venus visiter nos infrastructures, l'existant et ce qui va être fait dans un an et demi. Cela veut dire l'arène nationale et Dakar Arena, cela veut dire le palais des sports. Ils ne sont pas arrêtés ici à Dakar parce qu'ils sont allés en Célui et ailleurs pour voir effectivement dans le domaine des infrastructures les capacités de notre pays. Et quand je les ai reçus, ils ont compris que le Sénégal pouvait être candidat et le Sénégal pouvait abriter ces Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Il y en a qui se manifestent déjà pour soutenir et promouvoir cette candidature. L'exemple du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal qui dit toute sa disponibilité, son président Khadim Diop.
Au Sénégal, la jeunesse représente plus de 65% de la population. En tant que Conseil National de la Jeunesse du Sénégal, bon, on a une expérience par rapport à l'organisation des Jeux. Je donne l'exemple, il y a de cela. Une semaine, nous avons organisé les Semaines Nationales de la Jeunesse et on peut dire que les Jeux Olympiques de la Jeunesse, c'est en quelque sorte la Semaine Nationale de la Jeunesse de façon internationale. Donc nous, au niveau du Sénégal, il y a l'expertise. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a les ressources humaines de qualité pour accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Le président du CIO, Thomas Bach, a déjà dit son souhait de voir un pays africain accueillir les JOJ de 2022. Le Comité Olympique Sénégalais qui porte cette candidature ne veut pas trop commenter le dossier et préfère travailler en coulisses d'ici octobre lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 à Buenos Aires. C'est là-bas que sera décidé qui va organiser les JOJ 2022. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et du Sénégal, on part au Gabon à présent pour parler de taekwondo et plus précisément d'Anthony Obam.
Oui, de la colère froide de l'athlète, le Gabonais accumule les récompenses. Il vient d'être sacré pour la 2e fois champion d'Afrique en plus de 87 kilos. C'était il y a 2 semaines. Et pourtant, Obam affirme que sa fédération ne le soutient plus, notamment financièrement. Chaque année, comme plusieurs athlètes de haut niveau gabonais, il est censé recevoir une subvention pour l'aider à s'entraîner et à participer aux compétitions internationales. Or, le seul et unique médaillé olympique gabonais affirme ne rien toucher depuis 3 ans, si ce n'est une prime exceptionnelle spécifique pour se rendre aux Jeux de Rio en 2016. Fritz Koum est allé le rencontrer, vous allez l'entendre s'il parle, c'est aussi pour exprimer le malaise des autres sportifs gabonais.
Depuis 2012, je suis subventionné. Depuis 2016, je ne suis pas rentré en possession de cette subvention. J'en avais déjà discuté bien avant ce championnat d'Afrique, mais c'est clair que ça a pris des proportions énormes puisque je suis revenu avec la médaille.
Comment est-ce que vous avez préparé le dernier championnat d'Afrique du Maroc.
Je l'ai préparé ici au Gabon. Je suis rentré au Gabon en décembre. Et lorsque je suis rentré justement au Gabon, j'avais à cœur de régler ce problème-là de règlement que le ministre des Sports lui-même avait dénoncé par rapport au dysfonctionnement qu'il y avait dans la maison du ministère des Sports. Et j'en avais parlé avant la compétition. Et j'essayais de régler ce problème justement avant de partir en compétition. Il m'avait donné sa parole. Je sais, il a essayé dans la mesure du possible que ce soit réglé. J'ai contacté le Premier ministre pour que ça aille encore plus vite. Le Premier ministre, il m'a répondu favorablement. Il a donné des directives pour que cela soit fait. Mais le problème qui s'est passé, c'est que nous sommes sous une urgence avec un programme de compétition, d'entraînement et tout le reste, où le facteur temps nous impose à agir vite. Pendant que les dossiers sont en train d'être traités, il faut participer aux compétitions.
Vous n'avez pas eu cette subvention réservée aux sportifs de haut niveau en 2016, 2017, 2018. Comment est-ce que donc vous avez pu participer à toutes ces compétitions internationales?
Par rapport à mon statut, j'ai pu avoir une aide spéciale justement lors de l'année olympique pour pouvoir gérer cette année 2016. Heureusement que j'ai pu l'acquérir. Nous sommes plusieurs athlètes de haut niveau qui sont subventionnés. Ce problème-là, il n'est pas que de moi. Il n'est pas. Je parle aujourd'hui, pourquoi? Comme je vous ai dit, parce qu'il y a eu le résultat, parce qu'il y a eu la médaille d'or du championnat d'Afrique. Mais il y a d'autres athlètes qui sont dans ce problème-là, qui sont performants, mais tous ne sont pas subventionnés. Nous sommes deux athlètes en taekwondo. Moi et la jeune Mouiga Maria. Si moi, j'ai eu l'opportunité, par mon statut, d'avoir cette aide spéciale. Elle n'a pas eu cette opportunité. Voilà la situation aujourd'hui.
Est-ce que vous avez eu d'autres aides financières pour pallier à ce manque de subventions pendant les années 2016, 2017, 2018?
Il y a le comité olympique qui met à disposition des bourses olympiques pour soutenir les athlètes, justement. J'ai apprécié l'intervention du président du comité olympique, Léon Folquet, qui a très bien expliqué la situation, qui a mis l'accent sur le fait qu'un athlète de haut niveau coûte extrêmement cher. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ses mots, qui a dit que une bourse olympique ne peut pas couvrir un athlète de haut niveau qui a besoin d'un staff. Il faut reconnaître une chose, il faudrait que je sois capable d'expliquer que cette subvention, elle n'est pas pour moi. Tout l'argent qui est mis à ma disposition, je le mets à la disposition de mon pays, c'est-à-dire en représentant mon pays valablement. Je le mets à disposition. Il faudrait que je paye tout mon staff, tout mon corps médical, mon entraîneur, les voyages. Et ce que je paye double parce que je le paye pour moi et je le paye pour mon coach. Je le paye pour toutes les compétitions. Lorsque je ne vais pas dire que je suis le bienfaiteur du Gabon, mais je vous ai parlé de la jeune Mouiga Maria aujourd'hui. Elle est sous ma charge. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas.
Voilà, Maria Mouiga, vice-championne d'Afrique chez les moins de 67 kilos il y a 2 ans. Mouiga et Obam qui s'entraînent donc tous les deux ensemble en Espagne.
Alors on l'a entendu, ce n'est pas la première fois qu'Anthony Obam proteste contre ses arriérés, mais que répondent les instances?
Eh bien, elle semble consciente du problème. C'est le cas de Mathias Otunga Osibajuo, ministre des Sports gabonais. Mais selon lui, ce sont les difficultés financières de l'État qui posent problème.
Les choses sont simples. Le pays a des difficultés financières. Et donc, il y a un certain nombre de dossiers qui sont en souffrance au Trésor. On appelle ça les instances du Trésor. Mais l'État réaffirme sa disponibilité et son soutien total à cet athlète de haut niveau qui nous fait honneur. C'est pour ça qu'en 2016, en attendant l'aboutissement de cette subvention, l'État a fait l'effort qu'il a pu pour lui permettre de préparer au mieux les compétitions.
Voilà, prochain rendez-vous majeur pour Anthony Obam, ce sera en 2019 pour les championnats du monde de taekwondo.
Merci beaucoup Cédric. Deux petites infos en bref avant de se séparer. D'abord le podium surprise du Grand Prix de Formule 1 de Chine à Shanghai, 3e course de la saison. Ni Lewis Hamilton, ni Sebastian Vettel à l'honneur, mais l'Australien Daniel Ricciardo, vainqueur pour la 6e fois de sa carrière. Le pilote Red Bull, parti en 6e position sur la grille, a utilisé toute sa science du dépassement pour s'imposer sur la Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et la Ferrari de l'autre Finlandais Kimi Raikkonen. Hamilton, tenant du titre, finit 4e et Vettel seulement 8e, mais l'Allemand garde la tête du championnat du monde avec 9 points d'avance sur Hamilton. Et puis une toute dernière info qui concerne le tennis à Marrakech, victoire en finale de l'Espagnol Pablo Andújar aux dépens du Britannique Kyle Edmund, 6-2, 6-2. Voilà, Mondial Sport, clap de fin, merci à Valentin Vaner et Yann Bourdela pour la réalisation. Dans un instant, 24 heures en France avec Edouard Dupé-Noat. Bonne fin de soirée à tous.